France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Notre série de cette semaine porte sur le présent. Voici le premier épisode, savoir saisir l'occasion, la notion grecque de kairos. Penser le présent, c'est déjà l'avoir perdu. En le recueillant, on en fait déjà du passé. En cela, le présent est une énigme philosophique. Nous y réfléchissons en 4 épisodes cette semaine en sollicitant diverses pensées philosophiques. Cependant, si la pensée échoue à saisir le présent au présent, l'action y parvient peut-être, et en particulier l'action qui, soudain, exécute une décision elle-même soudaine, prise dans l'inattendu du présent. Saisie époustouflante du moment présent qu'on observe en effet chez certains stratèges militaires, certains orateurs, mais aussi chez les amoureux, qu'on pense à Julien Sorel décidant de prendre la main de Madame de Rênal ce soir et non un autre soir, maintenant et non tout à l'heure. Les Grecs anciens avaient un mot pour parler de cela, c'est-à-dire de l'occasion dont on sait parfois s'emparer avec à propos. Ce mot, c'est le kairos. Un drôle de mot, kairos. Il a une longue histoire complexe avant de revêtir, vers le 4e siècle avant Jésus-Christ, ce sens temporel exclusif. Regardons tout cela de près dans cette première émission de notre série sur le présent. Qui de mieux pour parler du kairos qu'une helléniste qui lui a consacré de gros travaux et est sans doute sa meilleure spécialiste en France. Bonjour Monique Trédé.
Bonjour Géraldine.
Membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, disciple de Jacqueline de Romilly, vous avez publié il y a un certain nombre d'années déjà aux éditions Klinksic une véritable somme intitulée « Kairos, l'à-propos et l'occasion, le mot et la notion d'Homère à la fin du 4e siècle avant Jésus-Christ ». Et ce livre est toujours disponible, réédité aux éditions Les Belles Lettres. Et puis bonjour René de Nicolaï.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes chercheur en philosophie ancienne, on vous entend de temps en temps dans Avec Philosophie. Vous êtes post-doctorant et enseignant à l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm. Écoutons tout de suite un exemple possible de cette notion de kairos.
Un brouillard qui arrive ce matin.
Et l'empereur, et
il dort encore.
Sire, tous vos chefs de corps sont là. Maintenant, messieurs, nous allons commencer une grande journée. L'ennemi se jette en masse sur notre droite. Ils sont les plus nombreux, ils auraient pu m'attaquer, non. Ce qu'ils veulent, c'est me couper la route de Vienne et capturer l'armée entière.
Quelle heure ?
7 heures, sire.
Regardez, sire ! Les hauteurs du plateau de Pratzen se dégarnissent. Et vos ennemis descendent comme un torrent et se dirigent sur les nappes de brouillard où se cachent vos troupes. C'est le moment.
Quand l'ennemi fait un faux mouvement, il faut bien se garder de l'interrompre.
Chap ! Distingue-t-on déjà vos signaux à 800 mètres ?
Oui, Majesté !
Que Claparède ouvre le feu à mitraille de ses 18 canons ! Dans une minute !
Oui, Majesté !
C'est si grand. Je vis auprès de vous de telles minutes que je voudrais trouver le titre de mon chapitre de ce 2 décembre.
Mais le voici le titre, mon petit. Le soleil d'Austerlitz.
Vous venez d'entendre un extrait du film Austerlitz d'Abel Gance de 1960 avec cette victoire fameuse de Napoléon le 2 décembre 1805 pendant la campagne d'Allemagne contre les troupes de François Ier, empereur d'Autriche et du Saint-Empire romain germanique et les troupes du tsar Alexandre Ier, chef-d'œuvre de tactique militaire qui tenait en effet à un très judicieux choix du moment, du bon moment. L'art militaire, le domaine militaire est-il un des domaines, Monique Trédé, un domaine de prédilection auquel les Grecs anciens appliquaient la notion de kairos ?
Indiscutablement. Si vous lisez Thucydide, par exemple, Thucydide qui fut l'homme de ma vie, après avoir été celui de Jacqueline de Romilly, eh bien, Thucydide vous montre très bien que les bons stratèges, comme Gilippe, les bons stratèges, savent saisir le moment précis de l'attaque, parce qu'ils ont une connaissance complète du contexte de la bataille, c'est-à-dire du lieu, des forces hostiles, de la manière dont il faut agir, et tout d'un coup, hop, c'est le moment précis où l'attaque va être lancée, c'est le kairos, nous sommes d'accord. Mais lorsque vous me faites parler du kairos de cette manière, avec une ouverture, avec ce beau film La Belle Ganse, il est évident que vous êtes aristotélicienne ou post-aristotélicienne. Or, par malheur, moi, mon remède à l'insomnie, c'est-à-dire ma thèse, a traité essentiellement de ce qui précède Aristote. Alors, je suis un peu frustrée,
mais je trouve que vous
nous mettez en effet dans l'ambiance parfaitement.
Mais quand même, je sais ce que vous voulez dire, je l'ai d'ailleurs évoqué tout de suite dans l'introduction, à savoir que le mot kairos, avant le IVe siècle, avant Aristote, ne désignait pas seulement le bon moment. Il désignait, et d'ailleurs dans l'art militaire, quoi d'autre ? La bonne cible, le bon tir, la bonne façon de faire, chez Homère par exemple.
Alors, le mot a une très longue histoire. Il est attesté dès Homère, on le sait, puisqu'on a un dérivé kairios, qui prouve que kairos était connu. Bon. Et il existe encore en grec aujourd'hui. Pour parler du beau temps, on dit kalokairos, si vous permettez. Donc, ça désigne le temps disponible, le beau temps, la belle saison, etc. Donc, c'est un mot qui a une histoire aussi longue que la langue grecque. Bien. En revanche, ce que montrent très bien les emplois homériques, c'est qu'à l'origine, ce mot a désigné la cible que vise l'archer. C'est un terme de chasse, n'est-ce pas ? Donc voilà pourquoi ça remonte si haut dans la civilisation. La cible que vise l'archer, c'est justement ça, le kairos. Et donc c'est un point critique, mais qui est défini d'abord dans l'espace. Et ce qui, moi, m'a semblé intéressant, c'est que ce point critique défini dans l'espace, avec la métaphore, l'image du chasseur, va pouvoir être définie dans diverses catégories. Dans la quantité, par exemple, la bonne mesure, ce sera également toucher le kairos. Pour un médecin qui vous donne un médicament, eh bien, il ne faut pas qu'il en donne trop, il faut qu'il en donne néanmoins assez pour qu'il soit efficace. Donc, s'il tombe sur le kairos, le bon kairos, le médecin expérimenté va vous donner la juste dose qui permet la guérison. Et ça, c'est toucher le kairos.
C'est très intéressant, même passionnant, cette polysémie, nous allons y revenir. Absolument. Polysémie a en même temps une racine commune, l'idée de l'opportun, de ce qui convient bien. René de Nicolaï, vous confirmez qu'avec Platon et surtout Aristote qui écrit en plein IVe siècle, le mot kairos, lorsqu'il est employé, ne signifie plus que le bon moment, c'est-à-dire est devenu exclusivement temporel.
Il a certainement ce sens temporel, mais je dirais, je suis curieux évidemment de savoir ce que Monique Trédé en pense, mais que chez Platon comme Aristote, le savoir du kairos définit à bien des égards le savoir du sage, du sage pratique. En particulier du sage en politique. Et puisqu'on a évoqué l'art militaire en commençant ce 2 septembre par un souvenir d'un glorieux 2 décembre, j'évoquerai brièvement un texte de Platon qui est en grande partie un dialogue plutôt sur le kairos, un de ses derniers dialogues sans doute qui s'appelle Le Politique, dans lequel Platon dit la chose suivante. Il appartient à l'homme politique au sens le plus plein, au sens le plus noble, c'est-à-dire au gouvernant vraiment savant et sage, de savoir à quel moment et en quelles circonstances appliquer, faire usage de telle ou telle technique. Par exemple, dit Platon, il n'appartient pas à l'homme politique sage d'être nécessairement bon général. Il peut ne pas l'être. En revanche, il doit savoir quand il convient de faire usage de l'art du général ou de l'art du diplomate. Et on est évidemment aujourd'hui dans un contexte de guerre que l'on connaît tous. Et Platon dirait qu'il appartient à un vrai homme politique, enfin une vraie personnalité politique, de savoir quand il convient de faire la paix ou la guerre.
Donc c'est vrai que c'est surtout le sens temporel, vous venez de le confirmer. Quand faut-il faire usage de quelqu'un de très compétent, par exemple sur le plan militaire, quand on est soi-même un homme politique ? En même temps, c'est un peu plus large, c'est-à-dire qu'on sent qu'il faut aussi faire appel à la bonne personne, au bon militaire. Il y a quand même, c'est exclusivement temporel en tout cas, en apparence, mais en dessous, c'est comme s'il y avait tout un tas de vertus impliquées. Je me trompe ?
Là encore, je pense que c'est l'étymologie qui nous éclaire beaucoup, mais Monique Trédé en a évidemment parlé, puisqu'elle est la grande spécialiste du sujet. Le kairos, initialement, il semble qu'une des étymologies possibles, ce soit le point de la cuirasse qui permette qui permettent de toucher l'adversaire, c'est-à-dire le point où le coup porte le mieux.
Et si on ça reste un peu.
Et si on en revient à ce sens, si je puis dire, fondamental, en tout cas originel, on peut voir que le kairos a un champ sémantique qui inclut certes le temps, et le terme finit par se concentrer dans ce sens, mais qui va aussi au-delà.
Alors, le préfixe « care », enfin, je ne sais pas si c'est un préfixe, enfin, la racine « care », je ne sais pas qu'on dit en français, évidemment, ce n'est pas du tout les lettres grecques quand on dit comme ça. Monique Trédé, ça veut dire quoi ? Coupant, tranchant ? Est-ce que c'est important ?
Absolument,
est-ce que c'est avéré ?
Absolument, c'est une racine qui désigne la coupure, le tranchant. Alors, pourquoi est-ce que je me suis intéressée à cette notion ? Parce que j'aime comprendre les textes que je lis. Et comme je lisais beaucoup de textes grecs, j'étais quand même sidérée de constater que... Chez Homère, en effet, c'est le point décisif qui va permettre au chasseur de toucher sa proie de manière définitive. Alors c'est intéressant, pour ceux que ça intéresse évidemment, parce que ça vous montre d'emblée l'ambivalence du kairos. Mmh. Car ce point décisif assure le succès du chasseur, mais en même temps la fin de la proie visée. Et donc la mort de l'adversaire, par exemple, sur le champ de bataille. Donc on voit très bien pourquoi on retrouvera à l'époque classique deux composés, un avec le préfixe privatif alpha, akairia, c'est l'absence de chance, l'absence de kairos, et d'un autre côté, eukairia, la bonne chance, la bonne occasion, et on voit très bien comment l'ambivalence du terme est présente dès Homère. Pour ce qui est de l'étymologie, vous vous posiez la question, certains ont pensé, puisque c'est le point décisif qui entraîne la mort du guerrier, il y a peut-être un lien avec le mot care qui signifie la mort. Bon. D'autres, constatant que chez Hésiode, il faudra bien en parler à un moment ou à un autre.
On y vient.
La notion de kairos est liée à la mesure, metra, philatestai, dans les travaux d'Hésiode, n'est-ce pas? Et le kairos semble bien être un terme fondamental de la morale archaïque, retrouvant et se rattachant à la notion de mesure et d'à propos, absence d'excès, absence de manque. Bon. Donc, ce qui m'avait intéressé, c'est comment, alors que les deux sens sont clairement attestés, comment est-ce qu'on peut expliquer cette double orientation du mot.
Oui.
Et j'ai donc fait une étude sémantique complète. C'est possible aujourd'hui parce que nous avons des instruments de travail qui sont tout à fait remarquables, comme le Thesaurus Linguae Graecae, le TLG, qui permet d'avoir l'ensemble des occurrences des mots, des dérivés et des composés dans tous les textes grecs. Alors je n'ai pas, je dois être honnête, consulté l'ensemble des textes grecs, dont nous n'avons que 10% par rapport à ce qui a été écrit, mais enfin ça fait déjà beaucoup. Mais je me suis allé au moins jusqu'à Aristote avec quelques sondages chez Polybe, chez Plutarque, enfin un petit peu après Aristote.
Oui.
Et j'ai constaté qu'en effet, Aristote, comme le disait très bien monsieur de Nicolaï, comme Aristote définit le kairos dans l'éthique à Nicomaque comme le bien dans le temps.
Donc,
la relation, nous dit-il,
maintenant.
C'est l'utile. Dans la quantité, c'est la juste mesure. Oui. Mais dans le temps, on l'appelle kairos. Bon. Donc, on n'a plus cette ambiguïté qui est tellement intéressante dans toute la période antérieure. Donc, nous sommes ici après Aristote. Bien. Mais dans la période antérieure, je me suis dit comment est-ce qu'on peut expliquer ces deux orientations du mot. Et je pense que l'étymologie est en effet celle de la racine « care », qui veut dire « couper, trancher ». Pourquoi est-ce que je pense cela ? Parce que la coupure, c'est aussi la jointure. Et qu'on a une série d'exemples. Par exemple, j'aime beaucoup ce petit fabliau du Moyen-Âge qui s'appelle « la housse partie ». La housse partie, ça veut dire « la housse partagée », car « partir » à l'origine signifie « partager ». Eh bien, cette housse partie a donné, en français... Le mot « la partie », c'est-à-dire ce qui a résulté du partage, donc de la coupure, n'est-ce pas, de la limite. Et puis « le parti », c'est-à-dire « parti politique » dont il est tellement question aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est-à-dire le choix, la décision. Et je pense qu'avec cette idée qui est vraiment bien attestée dans les langues, en français, je pourrais vous donner une foule d'exemples, j'avais regardé en allemand, en russe, eh bien avec cette idée que la coupure est aussi une jointure, et donc une jonction, et donc un rapport qui permet une forme d'harmonie, eh bien on a, je pense à penser à section et intersection, par exemple, des choses comme ça, eh bien on a l'explication de cette ambivalence du terme. Et c'est ça qui m'a intéressée.
C'est très intéressant. Est-ce qu'il est aussi, c'est qu'à un moment, ça s'arrête quand même un peu, l'ambivalence, il y a une sorte de rétrécissement. On a l'impression, à partir du IVe siècle et d'Aristote, que ce n'est plus que le bon moment, le bon point dans le temps. Alors, je voudrais qu'on reste un peu sur les enjeux politiques et militaires, parce que c'est un des domaines où le kairos, vraiment, est utilisé comme notion. Et justement, au IVe siècle, il y a une polémique très intéressante entre deux orateurs et hommes politiques athéniens, Démosthène et Échine. Pouvez-vous nous en parler un petit peu, René Nicolaï ? Et après, je vous proposerai d'entendre un court texte de ce Démosthène. Mais d'abord, présentons les acteurs.
Volontiers. Donc, on est au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ, à la fin de la décennie 350. Athènes n'est certainement pas ce qu'elle a été dans la deuxième moitié du Ve siècle, c'est-à-dire un très grand empire, mais elle préserve tout de même un certain nombre de possessions et une grande influence dans la mer Égée et ailleurs. Il se trouve cependant qu'il y a une puissance montante dans cette région, qui est la Macédoine de Philippe II, qui n'est autre que le père d'Alexandre le Grand, et qui conquiert, qui grignote de plus en plus de territoires, notamment sur la base d'une armée remarquablement équipée et entraînée. À Athènes, il y a des hommes politiques, dont Démosthène, dont on va parler très bientôt, qui considèrent que Athènes a les moyens, et Athènes a surtout le devoir de résister à cette montée en puissance qu'elle ne peut pas se soumettre à un individu que Démosthène qualifie de tous les noms, et notamment évidemment de barbare. Il y en a d'autres, dont on parlera aussi, dont Échine par exemple, qui considère que le rapport de force ayant changé, le bon politique qui connaît bien le kairos est celui qui sait s'y adapter, et Échine inaugure par là une période de la réflexion et de l'action politique athénienne qui va consister en grande partie, mais je pense qu'on y reviendra, à s'adapter aux circonstances.
Donc s'allier à Philippe II de Macédoine pour Athènes ou résister à Philippe II de Macédoine, c'est le sujet, et on voit bien qu'entre Démosthène et Échine, c'est la question du maintenant qui est posée, parce que c'est pas une question qui se pose en soi. Donc il pose le problème du kairos, d'ailleurs c'est explicite, l'un et l'autre, même s'ils n'ont pas le même jugement. On écoute Démosthène dans sa première philippique.
On a perdu en préparatif le temps où il fallait agir, car l'occasion, et c'est elle qui décide, ne consulte point notre lenteur. Et les conjonctures qu'ils trouvent en arrivant leur font sentir qu'ils ne peuvent rien. Aussi voit-on que Philippe II de Macédoine, dans une lettre qu'il écrit aux Eubéens, vous traite avec le dernier mépris.
Je vous laisse commenter, René de Nicolaï.
Le terme clé, évidemment, ici, c'est l'occasion. C'est l'occasion qui décide, et l'occasion ne consulte point la lenteur des Athéniens. Ce que dit Démosthène ici, c'est que le régime démocratique d'Athènes a évidemment des vertus considérables. Il a aussi un inconvénient majeur, qui est la lenteur. Et évidemment, quand vous êtes seul à décider, ça va plus vite. Mmh. Et quand vous êtes au Kremlin, au sommet de la chaîne de commandement, vous pouvez réagir extrêmement vite.
Le problème des démocraties, elles
absolument.
Sont plus
lentes. Quand il faut passer par deux chambres du Parlement, consulter tout un tas de personnes, voir le peuple, c'est évidemment plus... Enfin, nous avons tendance à penser, et moi le premier, que c'est plus légitime, mais ça prend un temps qui parfois est extrêmement précieux et peut faire perdre des occasions. Et c'est, je pense, le contexte politique dans lequel il faut replacer l'échange entre Démosthène et Échine ici.
Monique Trédé, nous allons parler un peu des poètes maintenant, et justement avant le IVe siècle, c'est-à-dire la période qui vous passionne, puisque là le mot kairos c'est très ambivalent, polysémique, il désigne non pas seulement le bon moment maintenant là-haut, au présent, mais il désigne le bon, plein de bonnes choses, opportunes, il est beaucoup plus large. Hésiode écrit à la fin du 8e et au début du 7e siècle, il est le fameux auteur des Travaux et des Jours. Pindare, bien plus tardivement, fin 6e, début 5e siècle, ces auteurs usent-ils et abusent-ils de la notion de kairos ?
Alors, je ne dirais pas qu'ils en abusent. Non, ils en usent indéniablement. Ils en usent parce que toute cette époque est liée à une morale de la juste mesure. C'est d'ailleurs ce que nous retrouvons avec Aristote. C'est quand même intéressant de ce point de vue. Bon. Une morale de la juste mesure. Et le mot-clé de cette morale, c'est bien sûr « meden agan », rien de trop. Rien de trop. Pourquoi rien de trop ? Parce que le succès est assuré par les dieux. Et les dieux détestent l'hubris, auquel vous avez, je crois, consacré un certain nombre
d'émissions. En effet,
oui.
Au mois de juin, si je ne me trompe pas.
Ils détestent l'hubris, et évidemment, quand rien ne se passe, ils n'ont pas à intervenir. Donc, pris entre ces deux excès, l'absence d'action ou l'action hubristique, les dieux ne favorisent que l'action mesurée. Et le kairos, de ce point de vue, prend le sens de... Enfin, rejoint dans cette analyse de l'action la notion de métrone, de mesure.
D'accord.
Et donc, devient un des termes fondamentaux de la morale.
Et dans la poésie, on peut dire que c'est la même chose, c'est une valeur, la mesure ?
Exactement, c'est une valeur, la mesure, parce que la mesure, c'est ce qui permet d'agir avec à propos. Et on voit très bien comment, d'une notion qui est spécifiquement morale. D'ailleurs, l'un des sept sages, Pythagore de Mytilène, a comme slogan Kairon Gnoti, connaît le Kairos. Bon, donc, ce qui revient au Meden Agan, ce qui rejoint bon, le Meden Agan que tout le monde connaît. Eh bien, cet respect de l'à-propos, donc, qui permet de faire une action mesurée, est salué par les dieux qui vous assurent le succès. Ce qui est intéressant dans cette notion, et qui est vrai d'Homère jusqu'à Aristote et au-delà, c'est que le kairos, dans un domaine qui est le domaine de l'action pratique, et non pas de la connaissance absolue, ces deux domaines du savoir que Aristote, je parle sous le contrôle
de René de Nicolaï, oui, moi aussi.
Qu'Aristote distingue très clairement et qu'il est le premier à distinguer, n'est-ce pas ? Eh bien, dans le domaine de la contingence, or l'action humaine est contingente, eh bien, kairos devient essentiel sous ces deux formes. Le choix du moment propice, on sait très bien que l'occasion a juste une boucle de cheveux qui est au-devant, qui lui retombe sur le nez, n'est-ce pas ? Mais qu'il est chauve à l'arrière de la tête. Parce qu'on ne peut le saisir qu'au moment où il se présente. Quand il est passé, c'est trop tard.
Ça, c'est pour l'aspect temporel.
Ça, c'est pour le temporel.
Mais présent.
En même temps, ce kairos de l'à-propos permet le succès. Alors, à l'époque archaïque, succès qui est autorisé, qui est offert par la divinité. Et on voit très bien comment les poètes peuvent s'en emparer, parce que Pindare, par exemple, lorsqu'il dit « Puissais-je toucher le kairos ?» Alors, il y a deux valeurs possibles. Il y a d'une part le fait que la parole à l'époque archaïque, comme dans tout le monde indo-européen, est conçue comme un projectile. Donc, quand on dit « je dis des choses kairia », ça veut dire « je tiens des propos qui touchent leur but ». Qui sont efficaces. Bon. Donc, lorsqu'il dit ça, il peut dire puisse mon ode être efficace et être bien reçue. Mais cela signifie aussi puisse-je dire des propos qui soient harmonieux dans le cadre de mon poème et de mon ode. Et du même coup, le kairos va être aussi ce qui va garantir le succès d'une œuvre, qu'elle soit une œuvre de sculpture. On sait très bien que Lysippe avait fait une statue de kairos qui était en réalité une matérialisation des proportions auxquelles se référait l'art de Lysippe, n'est-ce pas ? Donc ça devient la garantie de l'harmonie d'une œuvre d'art.
Donc c'est beaucoup plus large que le bon moment.
Absolument.
Pour le coup, chez les poètes, et encore jusqu'à Pindare, début 5e siècle, c'est encore très large et polysémique.
Oui. Et vous avez des souvenirs de cela. Alors, je crois que nous aurons l'occasion d'en reparler, mais dans les portraits de Théophraste, la kairos, c'est celui qui manque d'à-propos. Qui
fait tout. Alors, on en parlera plus tard.
Mais chez Callistrate, IVe siècle, fin de la période romaine, n'est-ce pas ? Kairos est l'emblème du beau. Du beau.
Donc et pour c'est un ça poète, ça compte, évidemment.
Absolument, mais pour un sculpteur aussi. Également, et pour un peintre également. Donc la notion est reprise par l'esthétique ancienne.
Alors on se demandera tout à l'heure, quand on sera arrivé à Aristote, si finalement c'est pas le mot mésone, hein, milieu, bonne mesure, qui va avaler tous les sens anciens du kairos. Mais si ça ne vous ennuie pas, René de Nicolaï, on va retarder un peu la question, parce que je voudrais quand même... reprendre le problème là où Monique Trédé le pose, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi du 8e au 4e siècle, il y a une évolution et un rétrécissement du sens du mot. Elle écrit, peu à peu, le kairos apparaît comme le point de jonction dialectique de deux durées, la longue maturation du passé et le surgissement de la crise qui exige rapidité, acuité d'un coup d'œil tendu vers l'avenir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se met vraiment, ça se loge désormais sur la question temporelle? C'est le maintenant, c'est le bon moment, ça devient le sens prédominant. La question se pose aussi en médecine, et je vous propose d'écouter un texte d'Hippocrate, qui lui écrit fin 5e, début 4e siècle. Écoutez, est-ce que vous entendez le bon, le bien, l'adéquat au sens large, ou est-ce que vous n'entendez plus que le bon moment? Réponse Hippocrate.
Les moments favorables pour agir, c'est-à-dire les kairoi, sont, pour le dire une bonne fois, nombreux, et de toutes sortes en médecine, comme le sont les maladies, les affections et leurs traitements. Les moments les plus fugitifs sont quand il faut porter secours à des malades qui défaillent, qui ne peuvent uriner ou aller à la selle ou qui étouffent, et qu'il faut délivrer une femme qui accouche ou qui avorte, ou des cas de ce genre. Ces moments sont fugitifs, et il ne suffit pas d'intervenir un peu plus tard, car un peu plus tard, la plupart des patients sont morts. Par ailleurs, tout secours apporté avant que le patient ait expiré est un secours apporté quand il faut. Et ce moment pour agir existe dans toutes les maladies. Toujours le secours utile est un secours apporté quand il faut. Il est d'autres maladies qu'il convient de traiter tôt le matin. Mais peu importe que ce soit tout à fait tôt ou un peu plus tard. Il en est d'autres qu'il faut traiter une fois par jour, et peu importe à quel moment. D'autres tous les deux ou trois jours, d'autres une fois par mois, et d'autres tous les trois mois, et peu importe que ce soit au début ou à la fin du troisième mois. Voici des cas où l'on manque le moment d'agir. Ce qui doit être traité le matin, si on le traite à midi, on traite à contre-temps. À contre-temps, en ce sens que le mal empire, parce que le traitement ne se fait pas quand il faut. Ce qui doit être traité vite, si on traite à midi, le soir ou dans la nuit, est traité à contre-temps. De même, ce qui doit être traité au printemps et est traité en hiver, ou ce qui doit être traité dès à présent et dont on reporte le traitement, ou ce qui doit être reporté et que l'on traite dès à présent. Dans de tels cas, on soigne à contre-temps.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
C'est impressionnant, René de Nicolaï, comment Hippocrate, qui, par ailleurs, annonce Aristote dans son souci du bon traitement, de l'adéquat, du bon dosage, de la mesure. Enfin voilà, on est en Grèce à quelques décennies d'Aristote qui va vraiment théoriser cela, y compris en morale. Il faut que ce soit adéquat, correct, adapté aux circonstances. Néanmoins, là, dans ce texte d'Hippocrate, on entend essentiellement le quand il faut, le moment, le bon moment. Il y a un rétrécissement impressionnant du kairos autour de ce présent immédiat qui doit être juste.
Mais c'est sans doute parce que dans la médecine grecque dès cette époque, la question des phases par lesquelles une maladie passe a pris une importance centrale. C'est quelque chose que le Covid, par exemple, nous a remis en mémoire. Une maladie a une période d'incubation, oui. une durée de, si je puis dire, de manifestation, et puis une période de rémission, et ainsi de suite. Bon. Cette temporalité et même cette division, cette partition en phases était déjà l'objet de théories chez les Grecs et notamment chez Hippocrate. Si bien que l'art du médecin va consister à appliquer le bon remède au bon moment, c'est-à-dire au bon emplacement, si je puis dire, sur la ligne temporelle de la maladie. Mm-hmm. D'où sans doute la spécification, disons, du sens de kairos dans son sens temporel ici.
Monique Trédé.
Oui. Alors, ce que disait M. Nicolaï est parfaitement exact. Et cette théorie des crises est en effet fondamentale pour expliquer la valeur ici temporelle du kairos dans ce traité médical. Mais je voudrais ajouter que même dans la collection hippocratique, donc chez les médecins, on a la valeur de kairos comme bonne dose, comme la dose qui convient. comme la dose adaptée à la maladie.
Même chez Hippocrate.
Même chez, dans des traités comme le régime des maladies aiguës, par exemple, qui est un traité austère, mais qui, on voit très bien que la notion peut être définie quantitativement.
Et que donc chez lui encore, on a la pluralité des sens.
Absolument. Absolument. Et elle se maintiendra dans les textes ioniens en particulier. Vous savez que, les dialectes grecs sont utilisés en fonction des genres littéraires, n'est-ce pas ? Donc un certain nombre de genres utilisent le dorien, un certain nombre de textes utilisent l'ionien. Et bien dans la prose ionienne, qui est la prose des médecins, le sens, je dirais, la
polysémie, non ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Oui, c'est ça.
La polysémie du mot
kairos. La polysémie du terme demeure, exactement. Et c'est comme ça qu'on retrouve chez Théophraste la kairos, qui est celui qui manque d'à-propos. Donc le souvenir du sens ancien se maintient. Alors vous disiez, qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, qu'est-ce qui s'est passé ?
Pour qu'on ait cette spécification du sens. Alors je vous donne mon hypothèse. Eh bien, ce qui se passe, c'est que, en effet, à l'époque archaïque, les dieux décident de tout. Mais à partir du moment où Athènes est parvenue à renvoyer les barbares, enfin donc à libérer la Grèce de l'attaque perse, les Grecs se sont sentis capables de tout. Et les humains, en particulier, se sont sentis maîtres de leur action. Donc, à partir de ce 5e siècle grec, vous avez une autonomie de l'action humaine qui n'était pas du tout celle de l'époque archaïque. Et donc, on va s'ingénier à trouver des recettes qui vont permettre, dans divers domaines, alors bien sûr, dans la stratégie, vous l'avez évoqué, dans la politique, c'est vrai aussi, en médecine également, de saisir le kairos. Et voilà pourquoi on a une série de réflexions sur la saisie du kairos temporel, le moment critique, dans ce monde du 5e siècle, qui est un monde où l'être humain se sent tous les pouvoirs.
Donc, si je vous suis bien, les technaï, les techniques qui se développent extraordinairement autour des 5e, 6e siècle, ou dans l'autre sens, 6e puis 5e siècle, font que, et l'autonomie de l'action humaine que vous venez d'évoquer va dans ce sens, on maîtrise mieux beaucoup de choses, on croit aussi qu'on les maîtrise mieux. Au fond, pour parler comme des modernes, on pourrait dire qu'on codifie pas mal de pratiques. Donc le bon dosage, c'est pas la peine de l'appeler le kairos, qui est une espèce d'évaluation un peu mystérieuse, on va donner le bon dosage. Beaucoup d'aspects techniques vont avoir leur nom propre. Et du coup, il semble que ce soit cela, je parle sous votre contrôle, mais Trédé, qui ait produit un rétrécissement du sens de kairos au sens temporel, le bon moment. Est-ce que vous êtes d'accord, René de Nicolaï ? Et est-ce que vous pensez justement que chez les auteurs que vous connaissez, Platon et Aristote, c'est effectivement cela qui se passe ?
Je rebondirai sur un terme que vous avez employé qui me semble extrêmement intéressant, qui est celui de codification. Tout dépend ce qu'on entend par là. Et précisément, la théorie du kairos chez Platon et Aristote s'oppose à la codification. C'est-à-dire que, là encore une fois, il faut repartir du contexte démocratique athénien, qui est celui dans lequel la cité impose la même loi à tous sur la base d'un principe d'égalité et tente de minimiser l'application de la loi selon des cas différents, tout simplement parce que ça pourrait créer des inégalités ou des situations de pouvoir indu. Bon, tel est le contexte démocratique. Donc la loi va être la même pour tous. Et Platon comme Aristote vont dire c'est précisément là le défaut de la loi. Elle est générale et impersonnelle et donc elle manque parfois d'à-propos, notamment au sens temporel. Et leur théorie de l'action droite va être la théorie d'une action qui s'adapte en tout aux circonstances, en particulier encore une fois temporelles.
On croit souvent, quand on va un peu vite, que c'est surtout Aristote qui avait le sens des aléas de la conjoncture et des circonstances, et que chez Platon, il y a des principes plus rigides pour la morale et pour la politique. On a tort. Le Platon du politique, par exemple, ce dialogue, certes postérieur à la République, montre aussi qu'il faut savoir tisser le tissu politique de manière, j'ai envie de dire, kairique, quoi, avec un bon sens du tempo et un sens du présent. Platon pense autant cela, le présent, l'occasion, l'opportun temporel que Aristote.
Mais déjà chez Platon, on a la fameuse dichotomie entre l'intelligible et le sensible, et le sensible est rétif par nature, si je puis dire, à toute régularité, en tout cas une régularité parfaite. D'où l'importance de bien avoir ce qu'on appellerait aujourd'hui un sens des situations. Et c'est déjà ce que dit Platon dans Le Politique, c'est ce qu'il évoque aussi dans un dialogue tardif auquel sans doute Aristote a mis la main, à savoir les lois. Et puis c'est une notion évidemment qui va devenir la pierre angulaire de l'éthique d'Aristote.
Nous parlons du Kairos ce matin, dans le cadre d'une série qui commence donc ce matin, consacrée au présent. Et le Kairos, c'est le sens du bon moment, du maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir et pas tout à l'heure. Je suis en compagnie de Monique Trédé et de René de Nicolaï, qui connaissent très très bien la culture grecque ancienne, littéraire, médicale, militaire et philosophique. Je vous propose d'écouter un extrait d'Aristote, justement, dans l'Éthique à Nicomaque, qui parle de la vertu et la dimension kairos est présente. Écoutez.
La vertu est une sorte de moyenne, puisqu'elle vise à un point d'équilibre. Ajoutons que nos fautes peuvent présenter mille formes, tandis qu'il n'y a qu'une façon de réussir l'action droite. C'est pourquoi il est facile de manquer le but est difficile de l'atteindre. Toutes ces raisons font que l'excès et le défaut dénoncent le vice, tandis que la juste moyenne caractérise la vertu.
A priori, il dit juste moyenne. Le mot classique d'Aristote, c'est mésone, je me trompe, René Nicolaï. Pourquoi y a-t-il aussi du kairos? Est-ce que le mot mésone, la bonne moyenne chez Aristote, n'a pas mangé tout ce que le kairos désignait auparavant, dans la polysémie magnifique que Monique Trédé nous a décrite?
Très probablement, mais Aristote a des rechutes, si je puis dire. Il y a un passage du livre 2, pour rester dans le vocabulaire médical, il y a un passage du livre 2 où Aristote dit « Tout ce que je vais dire dans ce traité d'éthique est comme une esquisse, parce que le juge de paix ultime, ce sont les circonstances. » Je peux vous dire des tas de choses, mais si je vous dis, par exemple, il faut toujours être courageux et surmonter et faire face à la tempête en remplissant sa mission. Mmh. Ben, si vous vous retrouvez dans une tempête et qu'au fond, en jetant par-dessus bord une partie de, non pas de votre équipage, mais de votre chargement, vous pouvez vous en sortir, et ben, vous pouvez faillir, si je puis dire, un peu à votre mission et sauver votre peau et celle de votre équipage. Tout est une question de circonstances. Et dans le texte qu'on vient de lire, certes, Aristote insiste et n'emploie que la notion de mésone ou de mésothèse, c'est-à-dire de médiété, de moyenne. Il parle du fait d'atteindre son but, le but étant le scopos, mais on retrouve là le vocabulaire, enfin disons plutôt l'univers mental de la chasse qui est aussi commun avec Kairos. Mais ce qui est important, je pense, de rappeler, c'est que, donc, d'une part, Aristote pense que la vertu est une question de médiété, de circonstances, de mésone.
Oui.
Et en même temps, il donne à l'attention aux circonstances temporelles, donc au sens précisément temporel, une importance majeure. D'où l'insatisfaction qu'on peut souvent avoir quand Aristote nous donne la définition d'une vertu. Il va vous dire, pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, être courageux, c'est une moyenne entre la lâcheté et la témérité, et ça consiste à craindre ce qu'il faut quand il faut. Et on reste un peu sur notre fin, on a envie de savoir...
On veut dire quoi quand de principe.
Exactement. Eh bien, précisément, et Aristote est sans doute ravi de notre insatisfaction, puisqu'il oriente notre attention vers l'essentiel, à savoir les circonstances, en particulier les circonstances temporelles, d'où la mention récurrente de « quand il faut » dans les
définitions de la vertu. Et il dit Kairos, alors, est-ce qu'il le prononce ce mot, en plus de son mésone, de sa juste...
Oui.
De
il
son
le dit au début du livre 2, dans le passage que j'ai évoqué, il dit, voilà, tout ce que je vais dire est général, maintenant, en éthique, comme en médecine, et comme en stratégie, l'important, c'est le Kairos.
Monique Trédé.
Alors, je parle sous le contrôle de M. Nicolaï, je rebondis là-dessus, c'est tout à fait exact. Moi, ce qui m'a semblé, c'est qu'en effet, c'est le modèle technique qui est au cœur de la morale d'Aristote. Et que, comme vous le suggériez, en effet, le Mason reprend un grand nombre des valeurs du Kairos. Car le modèle médical est fondamental aussi pour Aristote. N'oublions pas qu'il était le fils d'un médecin. Donc, ça me semble tout à fait juste. Moi, j'ai esquissé à la fin de mon travail, j'ai esquissé cette remarque sur Aristote. Mais ce que je voudrais dire également, c'est que, à la fin du IVe siècle, cette merveilleuse enthousiasme sur les pouvoirs de la raison humaine, eh bien, s'estompe. Pourquoi est-ce qu'il s'estompe? Parce que c'est Philippe qui, finalement, signe la fin du règne de l'indépendance des cités.
Bon. Philippe de Macédoine, père d'Alexandre le Grand.
Exactement.
Et quand les cités vont être moins indépendantes, elles vont être moins fructueuses sur le plan de la pensée, c'est ça que vous dites?
Alors, pas du tout. C'est pas du tout ça que je dis. Ce que je dis, c'est que l'espèce d'enthousiasme intellectuel qui portait le Ve siècle, qui était lié aussi à une situation historique, va s'effondrer. Et que je vous disais qu'à l'époque archaïque, Kairos était accordé par les dieux, et bien maintenant, Kairos va être accordé par la chance, par le hasard, par, vous voyez, d'où ce rôle aussi des circonstances sur lequel insiste à son tour Aristote.
Oui.
Ça me semble une évolution également importante.
Donc la question du bon moment devient le vrai sujet du Kairos, quels que soient les principes ou les notions éthiques, comme la juste moyenne plus générale, que font valoir les auteurs. Mais avec Aristote, après Aristote, chez ses disciples, je pense à Théophraste que vous avez cité et nous allons y revenir, se pose de plus en plus la question de ce talent. C'est quoi ce talent du Kairos? Et donc, se pose aussi celle de celui qui n'a pas de Kairos. Pourquoi est-il si bonnet ou si lourdeau? Alors, nous avons cherché une illustration contemporaine de l'absence de Kairos et nous avons choisi un exemple très immoral. Le bon braqueur de banque est celui qui s'est braqué au bon moment. Écoutez cet extrait d'Un après-midi de chien de Sidney Lumet en 1976.
Éloignez-vous des systèmes d'alarme. Dépêchons! Serrez-vous au milieu. S'il bouge, je lui fais sauter la tête. Non, c'est de l'argent pourri, ça, il est marqué. Les billets sont marqués, ça vaut rien. Vu? C'est pas cette tête-là, madame. Vous aurez vécu un hold-up. Vous aurez sûrement droit à une douzaine de belles roses. C'est sale! Laisse-le répondre. Allez. Et voilà le travail. Ça, c'est du boulot. Avec nous, les choses traînent pas. Vous verrez, on aura vidé les lieux dans une petite heure.
Bon, d'accord. Prenez tout ce que vous voulez et disparaissez.
Bravo. Alors, la chambre forte est ouverte?
Je m'en charge.
C'est gentil, ça. Si tout le monde était comme vous. Mettez tout là-dedans. Et alors?
C'est tout ce qu'il y a.
Pardon, répétez un peu.
Le numéraire a été transféré cet après-midi, il ne reste que 1100 dollars.
C'est vrai, elle dit la vérité.
Ne me tuez pas.
Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a plus un rond. Ça dépasse tout, ça. Ça dépasse tout.
Il n'y a plus rien dans le coffre, quelqu'un est passé avant, ces braqueurs de banque ont d'excellentes techniques, mais ils ont raté le bon moment. L'exemple pourrait paraître un peu immoral, René de Nicolaï, néanmoins le validez-vous pour réfléchir à la notion de Kairos et d'absence de Kairos?
J'avoue que quand je lis les caractères de Théophraste, c'est pas forcément l'image d'Al Pacino qui me vient à l'esprit, mais le rapprochement, je pense, est saisissant. Ce qui est intéressant, et vous l'avez vous-même évoqué, c'est de se demander la qualité justement du savoir technique du braqueur ici. C'est-à-dire, mais tout en spécifiant tout de même que pour Aristote comme Théophraste, ils font de la théorie morale et non pas strictement technique. Donc la question pour eux va être un peu différente et on va le voir dans le texte sur la Kairos. La question est la suivante. Si quelqu'un a les meilleures intentions du monde, mais par manque de ce qu'on appellerait nous sens des situations, sens de la propos, est toujours à côté de la plaque, est-ce qu'on peut dire qu'il agit bien? nous, dans notre éthique, influencée notamment par le christianisme, par Kant, par d'autres sources, qui est une éthique de l'intention en grande partie, on sera un peu gêné aux entournures, on dira, bon, il a voulu bien faire, les circonstances ont voulu que, là, le pauvre braqueur ne savait pas que tous les billets avaient été transférés le matin même. Le pauvre, il faut le comprendre, il faut être indulgent. Pour Aristote et Théophraste, absolument pas. Si vous n'avez pas la sagesse pratique, la phronésis, qui inclut le sens des situations et notamment le sens de l'à-propos temporel, vous êtes à côté de la plaque et votre action n'est pas droite. Il n'y a pas cette mise en valeur de l'intention comme circonstance atténuante, si je puis dire.
C'est passionnant, ça. Ça veut dire que nous avons une tendance liée à nos sources morales plurielles à ne regarder que l'intention et le résultat. Bon, bah, si l'intention était bonne et que le résultat est mauvais, c'est pas si grave. Pour un grec, c'est une catastrophe. Il faut être beaucoup plus pratique. Vous êtes d'accord, Monique Trédé? Sans Kairos, on n'est même pas dans le juste milieu, la bonne moyenne. On n'est dans rien du tout. On a tout raté.
Alors, je suis tout à fait d'accord pour ce que disait notre ami de l'Icaliali sur Aristote, mais je voudrais insister sur un point. C'est que dans la définition de la vertu d'Aristote, on retrouve le vocabulaire du chasseur et du tir au javelot, n'est-ce pas ? Vous avez stochastiqué. L'intelligence stochastique, c'est celle qui vise un but. Oui. Eh bien, elle est stochastique du juste milieu, cette vertu. On nous explique aussi qu'il est facile de manquer le but, apotukein, qui veut dire manquer en effet une cible, mais qu'il est difficile de l'atteindre, et pitukein. Donc c'est la même métaphore. On retrouve cette idée que l'excès, donc hyper, ce qui est au-delà, ou le défaut, ce qui est en deçà, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est toujours l'image de la flèche qui vise son but. Mm-hmm. Donc là, c'est clair. En revanche, le point sur lequel je voudrais enchaîner, bien que n'étant pas philosophe, et donc sous le contrôle des philosophes, c'est que cette idée d'intention que vous avez très justement évoquée, et sur laquelle nous vivons quand même encore un peu, mm-hmm. on la trouve chez les stoïciens.
Donc c'est puisque, peut-être eux qui
puisque les stoïciens gardent la notion de kairos, n'est-ce pas ? Mais alors, comme... viser le kairos et l'obtenir, c'est en fait ça, avoir une action qui est conforme au fonctionnement de la nature. Plutarque, par exemple, qui déteste le stoïcisme, ironise en disant « oui, au fond, c'est l'intention qui compte chez les stoïciens, et donc c'est plus du tout l'action ». Donc c'est tout à fait intéressant. On a une évolution, même au sein de la culture grecque, vous voyez, vers cette idée d'intention sur laquelle ironise Plutarque, qui ne peut pas comprendre, qui ne peut pas admettre la doctrine stoïcienne.
Alors parlons, pour finir, des stoïciens, parce que du côté d'Aristote et de ses disciples comme Théophraste, bon, être un gros balourd qui n'a aucun sens de l'à-propos, c'est... l'intention peut être bonne, ça ne vaut rien. Est-ce vrai, d'après vous, René de Nicolaï, que alors l'école stoïcienne, elle commence avec Zénon de Critione, c'est-à-dire fin 4e, première moitié du 3e siècle, sous le portique, là, avec les peintures sur l'agora. Est-ce que vous pensez que là se joue quelque chose qui va peut-être faire perdre alors le sens du kairos pour se recentrer sur une espèce d'intériorité que les Grecs parfois sont accusés de ne pas avoir, mais enfin ils en ont une quand même avec les stoïciens.
Il y a un texte qui corrobore directement ce que disait Monique Trédé, c'est le livre 3 du De Finibus de Cicéron, qui est un traité sur les fins dernières en morale. Et Cicéron introduit le personnage de Caton, qui reprend précisément l'image du tir à l'arc, ou du tir en tout cas, dont on a vu qu'elle était à l'origine de la notion de kairos. Et Cicéron fait dire à son personnage Caton, il appartient aux sages de bien viser. Maintenant, si y a un éclair qui tombe entre le moment où il tire correctement, après avoir correctement visé, et la cible, ça ne dépend pas, pour reprendre un terme dont Épictète accentuera l'importance, ça ne dépend pas du sage. Mm-hmm. Alors que, encore une fois, pour Aristote, si je puis dire, le bon archer, c'est celui qui, par définition, atteint la cible, ou en tout cas... on ne peut pas dire de quelqu'un qui n'atteint jamais la cible par défaut de prise en compte des circonstances que c'est un bon archer.
Et les stoïciens, alors, c'est autre chose? C'est un autre monde qui commence à Athènes? Avec Zénon de Critione, et puis ensuite tous les Romains, Sénèque, puis avant Épictète, donc dans la filiation de cet enseignement stoïcien, eux vont en quelque sorte s'intéresser moins à l'occasion, ils vont recentrer sur il y a une sorte de concentration sur soi plus que sur les circonstances.
C'est une explication historique qu'on donne souvent et pour avoir essayé de l'interroger, je pense toujours qu'elle a une part de vérité et ça fait écho à ce que disait Monique Trédé de tout à l'heure. À partir du moment où Athènes n'a plus la maîtrise de son destin, à partir du moment où les gens à Athènes ont le sentiment que les choses, si je puis dire, se passent un peu au-dessus de leur tête, entre les grands diadoques, c'est-à-dire les successeurs d'Alexandre, il y a cette idée que, il y a une, si je puis dire, avec tous les guillemets de rigueur, il y a une forme de dévalorisation pardon, de l'extérieur et à l'inverse, de valorisation de l'intérieur. On a évoqué Théophraste, mais il faut bien se mettre à l'esprit que dans la période dans laquelle il a vécu, Athènes a changé 4 ou 5 fois de régime au gré des soutiens apportés ou retirés par des puissants de l'époque. Et Théophraste lui-même a écrit un traité qui s'appelait Traité sur la politique selon le Kairos. Et dans les caractères et à la fin de la collection, il y a un personnage qui s'appelle l'oligarque, qui est un personnage qui sert sa soupe idéologique, si je puis dire, ses slogans à tout propos, quel que soit le contexte dans lequel s'inscrit la cité. Et à partir de Théophraste, et c'est ce qu'on retrouvera par la suite dans les écoles hellénistiques, il y a l'idée qu'une bonne théorie politique est une théorie politique qui prend en compte les circonstances et notamment ce qu'on appellerait aujourd'hui le contexte géopolitique.
Quelle histoire, hein, Monique Trédé, cette affaire de Kairos. Vous disiez que ça vous avait rempli vos nuits d'insomnie pendant votre jeunesse et votre thèse. C'est toujours le cas? Il y a de quoi vous nourrir toute une vie, cette notion de Kairos.
Écoutez, en tout cas, c'est un thème qui visiblement peut toujours alimenter la réflexion. Aujourd'hui encore. Et c'est ça qui me semble important. Si vous voulez, cette évolution du Kairos chez les stoïciens, en fait, c'est une évolution liée au fait que ce monde des stoïciens est, au fond, un monde de la première mondialisation, vous voyez, en quelque sorte.
Oui.
C'est un monde élargi, ce que disait M. Nicolaï est parfaitement exact. Et donc, on se met à prendre en compte l'intention et non plus le résultat. Ce que je trouvais fascinant dans le monde classique, c'est cette idée que l'homme a énormément de possibilités et peut, s'il conjugue une longue expérience et un flair, et c'est ça qui est important, c'est que les qualités sont contradictoires. Ce sont les qualités de l'homme politique et les qualités du bon stratège. Il faut à la fois avoir une bonne connaissance du passé, de l'ensemble des circonstances, et un espèce de flair qui vous permet d'agir immédiatement et dans l'instant. Et ces deux qualités contradictoires, je souhaite que nos chefs d'État d'hiver les aient encore.
Et moi, je souhaite qu'ils vous écoutent.
Stars were bright above, the time was right for us to fall in love. It was nearly autumn, and time was right.
C'est la voix de Annie Ross que vous entendez. The Time Was Right, 1952. Merci beaucoup à tous les deux, Monique Trédé, René de Nicolaï, pour vos réflexions sur le Kairos selon les Grecs, qui est notre première manière d'introduire les problèmes philosophiques autour du présent, de la notion de présent. Les références de vos travaux sont sur le site de notre émission et à présent, je vous propose d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, Frédéric réfléchit au jeu, J-E-U-X. On l'écoute, voici le pourquoi du comment.
Pourquoi a-t-on besoin de jouer ? Si on veut comprendre le jeu, et même les plus importants des jeux, disons les jeux de la politique, disons même les jeux olympiques, disons les jeux de la guerre, les jeux qui jouent avec le feu, les jeux les plus dangereux, mais aussi les jeux les plus joyeux. Si on veut comprendre le jeu, donc, qui est visiblement au cœur de la condition humaine, il faut évidemment d'abord et toujours observer les enfants. Ce sont les enfants qui nous apprennent la vérité du jeu. En vérité, il n'y a pas d'enfance sans jeu, et peut-être que le jeu dans l'enfance est à l'origine même de la constitution de quelque chose de fondamental dans l'humanité. Or, si l'on observe les enfants, ce qui nous frappera, que nous soyons parents, adultes simplement, ou bien médecins, psychologues, pédiatres, si l'on observe les enfants en train de jouer, on s'aperçoit qu'ils jouent avec le plus grand sérieux, qu'ils ont créé en quelque sorte, parfois spontanément, une activité dans laquelle ils se déploient avec le plus grand sérieux, mais pas non plus avec un certain sentiment d'urgence. Il y a du sérieux dans le jeu, mais il n'y a pas de l'urgence au sens où, en effet, le jeu implique, par exemple, que l'enfant n'est pas mal, que l'enfant ne se brûle pas, que l'enfant n'est pas faim, n'est pas soif, qu'il ne hurle pas de douleur ou d'urgence, qu'il n'appelle pas au secours. Or, ce double aspect du jeu, à savoir qu'il est d'un côté très sérieux et d'un autre côté pas dangereux, en quelque sorte nous conduit à l'essence même du jeu. Le jeu, c'est une activité très sérieuse, une activité qui crée sa propre finalité, son propre investissement. Sa finalité, c'est-à-dire qu'il cherche un but, il cherche à atteindre quelque chose, mais cela à côté ou en marge des finalités du réel, des finalités immédiates et potentiellement urgentes de la vie. Le jeu a un but, le jeu, on le verra, a aussi des règles, le jeu a donc une finalité, il vise quelque chose de très précis, parfois même obsessionnellement, avec quelque chose de très sérieux, mais en même temps ce n'est pas quelque chose d'immédiatement vital ou urgent. Le réel peut venir reprendre ses droits. S'il y a un incendie dans l'endroit où vous êtes en train de jouer, ben vous arrêterez de jouer. Si pendant le jeu vous commencez à vous battre, alors cela ne sera plus, comme disent les enfants dans les cours de récréation, ça n'est plus du jeu. Ça n'est plus du jeu, ça veut dire à la fois ça n'est plus dans les règles du jeu, mais aussi on n'est plus là pour jouer. Il y a donc dans le jeu toujours quelque chose en marge du sérieux de la vie, du sérieux réel, de l'urgence, et c'est ce qui fait que beaucoup de gens sérieux, trop faussement sérieux, dévalorisent le jeu, parce qu'ils pensent du coup, comme ça n'est pas dans l'urgence vitale, que ça n'a pas d'importance, mais pourtant l'importance, l'intérêt, l'obsession, l'obstination des enfants et de tous ceux qui jouent à quoi que ce soit nous montre que le jeu a quelque chose de très sérieux malgré tout. C'est donc une définition du jeu, à mes yeux, une activité qui crée sa propre finalité de manière spontanée mais essentielle, en dehors ou à côté des finalités vitales, immédiates ou urgentes. À côté de la vie, un espace de jeu, comme on dit aussi, comme il y a une porte qui joue, à côté de la vie, un espace, mais malgré tout avec ses règles et son enjeu. Et du coup, celui qui a le plus théorisé cet extraordinaire espace de jeu, à la fois vital et à côté de la vie, c'est évidemment le grand pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott, sur lequel il faudra revenir dans son grand livre « Jeu et réalité », en anglais « Playing and Reality ». Pour lui, le jeu est l'endroit où, à côté de les urgences de la vie, les humains créent le monde.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Jérémy Kaufmann. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Philippine de Bélois, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité !